présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Un autre animateur est entré à la radio, un monsieur dans les 50 ans, petit, maigre, cheveux gris, tout ridé, habillé d'une gabardine grise, sale. Il porte un vieux sac plastique Fnac, tout pourri. Il s'appelle PM. Le jeune lui donne une affiche qu'il a faite pour son émission. PM regarde l'affiche et lui dit « Il y manque l'essentiel, les hommes !» Le jeune lui dit qu'il ne peut pas faire les hommes. PM le remercie, l'embrasse sur la joue. Le jeune embrasse PM aussi sur la joue, pour de vrai. Puis le jeune entre chez son père et lui raconte tout ce qu'il a fait et entendu. Son père lui dit « Tu as un âge de faire des expériences et que tu voyes des choses par toi-même pour te faire des idées et avoir ton point de vue. » Puis il lui parle du côté faux de ce que lui a dit son copain sur la police et ceci pour l'inviter à se rebeller contre la société, contre les institutions. Qu'il perd son temps avec eux et qu'il est trop bien, qu'il ne doit pas gâcher sa vie à cause de ses ploucs, qui ce serait dommage. Il prend le visage par le menton et lui dit « N'est pas beau, mon fils !» Puis il lui prend la main et lui dit « T'as des mains d'aristocrate. Je n'aime mieux pas dire des trousseurs de peuple, mais que tu as des mains plus élégantes que les autres. Tu vois ? Alors, que fais-tu au milieu de ces ploucs ? Toi si élégant. » Le fils lui dit, c'est là que se trouvent mes copains. Le père lui dit, eh bien tes copains sont pas très intelligents. Bon, je les ai menés par cette bande d'abrutis. Ne dis pas ça, ils sont très gentils.
Le père lui parle de la gauche, de ce que cela veut dire.
Le père est malade du corps. Le fils l'aide à faire ses affaires, ménage, etc. Il sort peu parce qu'il aide son père et n'a pas de distraction, à part qu'une distraction, la radio.
Il fait une émission musicale.
Le père a peur de mourir avant que son fils soit adulte.
Il lui dit que le temps passe vite et qu'il aimerait le voir avoir une place dans la vie.
Il a peur que les autres lui détruisent son avenir par méchanceté, jalousie.
Fais attention aussi avec les femmes. Il ne faut pas qu'elles te veulent ta vie. Je te veux libre. Choisis bien tes amis, car on te juge d'après tes relations.
Le père fait faire des classements de factures pour lui montrer où elles sont, chéquier, papier, etc.
Il faudra bientôt que tu te débrouilles tout seul. Bientôt 18 ans. Et moi?
À part les cours, il ne sort pas. Il va directement chez son père pour l'aider. Il a arrêté la radio. Un jour, il rencontre un copain qui lui demande ce qu'il devient. Je prépare le bac. Pourquoi ne fais-tu plus de radio? J'ai plus le temps entre les cours et tout le reste. Le jeune lui demande, est-ce que tu veux partir avec moi samedi, dimanche?
Je ne peux pas de rester avec mon père.
C'est dommage, nous aurions été dans le midi. Mais demande tout de même à ton père.
Le jeune entre chez lui.
Le père le voit triste et lui demande pourquoi. Le fils ne lui répond pas.
En jouant aux cartes avec le fils, le père se sent fatigué.
Le lendemain, le fils dit au jeune que son père est malade.
Le père lui dit, bientôt tu seras libre. Bientôt.
Lendemain, le fils va faire les courses. Juste avant de rentrer dans l'immeuble où il habite, il est accosté par deux jeunes qui le traitent de tête de con.
Le jeune ne répond pas.
Un des deux lui donne un coup de couteau dans la poitrine.
Il est tombé. Il est tombé.
Et les deux voyous se sauvent.
Le père a entendu du bruit. Regarde à la fenêtre. Voit son fils à terre, qui ne bouge pas, un couteau dans la poitrine. Il descend. Prend son fils dans les bras. Il meurt dans ses bras.
Les voisins ont appelé la police.
La police a ratrissé le quartier, a retrouvé les voyous. On leur demande pourquoi le coup de couteau. Le voyou qui l'a donné est incapable de répondre. Le commissaire lui dit.
« T'as fait ça comme ça? Vous avez fait quelque chose ?»
Le voyou lui dit. « Non, mais comme ça. »
« Pourquoi l'avez-vous accosté ?»«
Comme ça. » « Parce qu'on n'aimait pas son genre. »
Nicolas a fini le scénario de son film. Il ne lui reste plus qu'à le développer et se dit que s'il revoit le jeune garçon du café, il demandera de jouer le rôle du jeune homme.
En écrivant l'histoire, c'est à lui qu'il a pensé.
Malheureusement, il ne le revoit pas et est obligé de chercher un comédien. Il trouve un jeune homme de 17 ans, grand, mince, les cheveux châtains, clairs, courts, visage très fin, yeux bleus profonds, les gestes très distingués. Se dégage de lui d'une grâce extraordinaire. Le jeune garçon accepte de jouer le rôle.
Pour le rôle du père, pour la première fois, Nicolas a envie de jouer. Mais comme il n'est pas assez âgé, il va se grimer.
Durant le tournage, Nicolas est troublé par Y. Par sa beauté, fraîcheur. Dans des scènes où il l'embrasse comme un père, cela le trouble. Comme Nicolas n'est pas comédien, il est anxieux, a peur de ne pouvoir pas dire son dialogue. Pourtant, il l'apprend par cœur. Mais lorsqu'il le dit sans savoir ce qu'il dit, comme dans un brouillard. Ensuite, il demande à Y ce qu'il a dit. C'est difficile pour lui, car il doit penser en même temps à la technique, bien cadrée, lumière, etc. Et puis, il n'y a personne pour lui dire que s'il a été bon. Nicolas est troublé par le jeune Y. Il aimerait le toucher, l'embrasser, mais n'ose pas. Il a peur de le troubler. Ou qu'il se fâche et tient à le respecter. Lui parle gentiment, ne le brusque pas. Après le tournage, souvent, il l'invite au restaurant. Le jeune garçon est gentil et se laisse bien mener. Le tournage se passe bien.
Le temps passe.
Nicolas est toujours troublé par le jeune comédien. Mais il ose à peine lui parler à cause de son âge, de son côté pur. Il se dit, c'est vrai, on dirait un ange. Pourtant, l'adolescent le traite en camarade. Une fois le film fini, ils continuent à se voir, vont au restaurant, font du cheval. Nicolas se sent gêné lorsqu'il va chercher Y chez ses parents. Il a peur qu'il pense à des choses. Mais les parents trouvent que c'est bon que Nicolas ait pris de l'affection pour leur fils. Comme cela, il aura d'autres rôles. Peut-être deviendra-t-il un Antoine Doinel, le jeune Jean-Pierre Léo de Nicolas. Les parents de Y habitent Versailles, dans une petite maison avec un petit jardin sur le devant. La maison est simple, deux étages meublés avec des meubles modernes. C'est propre, agréable. La chambre de Y est une chambre sans affiche ou mur idiote que l'on trouve dans les chambres de jeunes. Non, tout est propre. Et Y est tout aussi propre et net et pur et sérieux.
Le film a eu du succès. Nicolas cherche un autre sujet de film, mais il est pris par son affection pour le jeune adolescent. Un soir, Y est chez lui, ils sont au salon, l'un en face de l'autre. Y lui dit « J'ai l'intention, c'est d'arrêter mes études. » Nicolas, surpris, lui dit « Continue à apprendre quelque chose, cela te servira toujours, c'est toujours utile. » Y lui dit « Bon, ben, je vais réfléchir. » Et il a repris le lycée pour avoir son bac. Mais cela ne l'empêche pas de revoir Nicolas. Nicolas a acheté un appartement dans un immeuble neuf au 6e arrondissement. Y y a sa chambre. Il lui montre l'appartement. 6 pièces, salon, salle à manger, bureau, salle de cinéma et 2 chambres. Il a meublé en Louis XVI. En lui montrant la deuxième chambre, Nicolas lui dit « Ce sera ta chambre. » Quand tu voudras passer des fins de semaine à Paris. Merci. Y est content. Il aime bien Nicolas parce qu'il le traite comme un adulte. Et malgré tout, il s'instaure entre Nicolas et Y des liens père et fils. Cela permet à Nicolas de cacher les troubles qu'il a en voyant Y. Un jour, Nicolas reçoit un appel téléphonique.
Allô, j'écoute ? Bonjour monsieur, je suis François Roset, journaliste de Paris Match. Et j'aimerais faire une série de photos de vous et vous interviewer.
Nicolas réfléchit et lui dit
« D'habitude, je refuse ce genre de choses, mais puisque j'ai un film dans les salles, j'accepte votre proposition. » L'homme lui demande. Je peux venir demain vers 15h?
Oui.
D'accord. Bon,
au revoir, monsieur. Nicolas se dit que ce serait bien que Y se fasse photographier avec lui. Il aime tellement qu'il veut lui faire partager sa fierté d'être sur Paris Match. Il téléphone à Y.
Allô? Bonjour madame, je suis Nicolas. Est-ce qu'Y est là? Pouvez-vous... J'aimerais lui parler. Ah, il est absent. Pouvez-vous lui dire de passer demain à 15h chez moi? J'ai un reporter de Paris Match qui vient et j'aimerais qu'il soit avec moi. Vous lui ferez la commission? Merci, madame. Une heure plus tard, le téléphone a sonné, Nicolas décroche. Allô?
C'est Y. Ma mère m'a parlé. Mais je n'ai pas envie de me faire photographier. Mais Y, tu seras très bien? Y lui dit. Mais à quoi cela servira-t-il? À te faire connaître? À te faire photographier avec moi? Ça me ferait tellement plaisir. Bon, ça te fait plaisir.
Le photographe arrive. Nicolas a demandé une photo avec Nicolas et lui. Sur la couverture de match, Nicolas est seul. À l'intérieur, il y a une grande photo où il est avec Nicolas. Il le tient face à lui, les mains autour du cou. Il a été inscrit sous la photo, Nicolas et son fils adoptif. Nicolas, en voyant ce qui a été inscrit, à cause de la famille, Y est gêné. Alors, il téléphone tout de suite à la mère pour s'excuser. La mère lui dit, ce n'est pas grave, de toute façon le petit est souvent chez vous. À Lyon, la famille voit match. Ils sont surpris d'apprendre que leur fils a un grand-fils de 17 ans. Le père furieux dit à sa femme,
il a un fils de 17 ans, alors qu'il a 31 ans, ce qui fait qu'il a eu l'enfant à 14 ans, et il nous l'a caché depuis 17 ans. Je vais demander des explications à mon fils.
Sa femme lui dit, que veux-tu? Notre fils fait un métier de gens dépravés. Il fallait bien s'attendre à ce genre de choses. Tu n'as qu'à lire ici Paris et voir comment vivent ces gens.
Le père écrit une lettre en demandant des explications à Nicolas. Sylvie dit à ses parents, Nicolas a bien le droit d'avoir un fils, qui est très beau d'ailleurs. Il est très très beau, on dira un ange. La mère lui dit,
être père, oui, mais pas à 14 ans. Et avec qui? Une de ses comédiennes.
Sylvie hausse les épaules et lui dit, son fils, au moins, n'a pas l'air d'être un dégénéré à cause du mariage consanguin.
À Paris, Nicolas reçoit la lettre. Cela le gêne. Il leur écrit pour leur dire que c'est une erreur de journaliste. À Lyon, le père lit la lettre de Nicolas. Cela le rend furieux et lui répond.
Tu traînes ta famille dans la boue et le déshonneur pour faire la promotion de tes films. Tu fais bien un métier immoral. Tu oses faire entrer dans la famille un comédien, un dégénéré, qui couche n'importe comment. Quelle honte! Tout le monde croit que tu as eu un fils à 14 ans et que peut-être que c'est le fils d'une de nos bonnes.
Comme par courrier, les choses ne s'arrangent pas. Nicolas décide d'aller à Lyon avec Y.
Y lui dit, je ne veux pas aller là-bas, je n'ai rien à leur dire. Nicolas lui dit, je t'en supplie, viens à Lyon avec moi pour m'aider à arranger les choses. Quand ils te verront, ça ira mieux.
Y lui dit, ou ils risquent de me mettre à la porte.
Nicolas lui répond, certainement pas. On ne met pas à la porte une personne comme toi. Aide-moi, je t'en supplie. Tu leur diras que toi aussi, que c'est une erreur de journaliste, qu'ils ont inventé tout ça. Y, surpris, lui dit, bon, d'accord, mais je suis trop bon.
arrivés à Lyon, ils sont directement menés chez les parents de Nicolas. Ils vont directement chez les parents de Nicolas. Là, le domestique prévenu les mène au bureau du père.
À son bureau.
Approchez.
Il s'approche.
Le père leur dit :
Je suis très mécontent de cette histoire, d'apprendre que mon fils a eu un fils à 14 ans et qu'il a 17 ans. C'est un scandale. Il fait un métier de voyou.
Cola lui dit : Père, nous sommes venus, c'est vous dire, c'est que nous n'étions pour rien. Il sort de sa poche. Une lettre, et la tend à son père. C'est une lettre d'excuse de l'hebdomadaire. Le père lit la lettre et dit :
Cela n'arrange rien. Tout le monde croit qu'il est ton fils. Le mal est fait.
Puis le père regarde bien Y, il est surpris, le trouve bien, beau et très élégant dans son comportement. Il demande :
C'est ton fils ? Oh, pardon.
Nicolas lui dit : Oui, c'est Y.
Jeune homme, je ne vous voyais pas comme ça. Venez, allons voir le reste de la famille.
Ils sortent du bureau. Et les mènent au salon. Le reste de la famille.
Nicolas présente Y. Une heure plus tard, tout le monde le trouve charmant et très beau. Pendant le repas, où il est assis à côté de lui, Nicolas lui dit :
Tu vois ? Je te l'avais bien dit qu'on te trouvait bien. De toute façon, on ne peut pas ne pas t'aimer.
Nicolas reste une semaine à Lyon. Pendant son séjour, Denis fait visiter la ville à Y. Lorsqu'ils s'en vont, les parents regrettent presque qu'ils ne soient pas leur petit-fils. Le père dit à Nicolas :
Ce jeune homme est charmant.
La mère lui dit : En tout cas, les gens ne pourront pas dire que ton fils n'était pas bien, n'est pas bien. Sur tous les points de vue, ramène-le-nous.
De retour à Paris, Nicolas essaie de se remettre au travail. Cherche un sujet de film, mais c'est dur parce qu'il ne pense sans arrêt à Y. Nicolas ne peut aller au cinéma car l'on risquerait de le reconnaître et la foule, les autographes l'empêcheraient de voir tranquillement un film. Alors il s'est acheté un projecteur et loue des films ou en achète. Il a aménagé une pièce comme une salle de cinéma. Souvent le soir, après dîner, avec Y, lorsqu'il est chez lui, il regarde un film. Durant la projection, très vite, Nicolas s'aperçoit c'est que Y bande chaque fois qu'il voit une femme nue sur l'écran ou qu'il y a une scène de sexe. Il le voit car Y étend la jambe, les jambes et se serre le sexe entre ses jambes. Nicolas est assis à côté de lui. Cela lui fait mal. Il se dit qu'il ne pourra jamais l'aimer. Il se met à penser que s'il était une belle jeune fille, Y pourrait l'aimer. Il se met à rêver qu'il est une autre personne. Entrer chez une personne comme ça, ou d'être invisible. Là, il pourrait suivre qui il voudrait, aller dans son appartement. Et même s'il est seul, quelle importance. Même s'il n'est pas seul, quelle importance. Le suivre de partout, dans la salle de bain, le toucher, lui donner des baisers, dormir près de lui. Il aurait des sensations, mais croirait que ça vient de lui, comme ça. Il saurait tout sur lui, même les choses les plus intimes. Je pourrais l'empêcher de voir du monde, des gens que je n'aimerais pas. L'aider, lui prendre la main pour aider à écrire ses devoirs. Je saurais peut-être ce qu'il pense de moi, et s'il me veut du mal. Aussi, je jouerai le jeu de l'ange gardien. Mais c'est qu'un rêve, et que Y ne peut toujours pas m'aimer. Il commence à déprimer. Il se dit qu'il est maudit, qu'il n'aime que des gens qui ne peuvent l'aimer. Malgré lui, il choisit des films où il n'y a ni filles nues, ni sexe. Cela n'est pas facile, car presque tous les films à partir des années 60-65 ont de ces scènes. Et comme Y, comme tous les jeunes, n'aime pas les vieux films, il n'aime que les récents. Y a réussi son bac. Nicolas veut lui offrir un cadeau et décide de lui offrir des cours de conduite et plus tard une voiture. Pour les vacances, ils iront en Amérique, voir les montagnes rocheuses et parcs nationaux. Les parents d'Y sont d'accord. Nicolas, pour lui, c'est un retour. Il se souvient de son séjour dramatique. Il se dit qu'il écrira un scénario de ce qui lui est arrivé la première fois. Bien entendu, d'une façon arrangée. En Amérique, ils voyagent beaucoup avec Y. Ils ont loué une voiture, couchent à l'hôtel, et 2 heures par jour, il écrit des scénarios. Et comme Y ne peut être le héros de cette histoire, il lui promet d'écrire un autre scénario pour lui à Paris. Les Américains reçoivent les deux Français dans des soirées bon chic, bon genre, villa, piscine, orchestre, etc. Y a beaucoup de succès avec les filles. À une soirée, une jeune fille réussit à le dépuceler près d'une piscine, pendant que Nicolas l'attend en pleurs dans son lit.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, rien, j'avais cru entendre quelque chose.
J'en ai marre, Arnaud.
Bah raconte. Je t'en ai mis, non ?
Oh, tout va de travers. On risque de perdre le hara.
Et vous venez encore d'acheter 3 chevaux ?
lorsqu'il revient, frappe à la porte de la chambre de Nicolas, ouvre, et dans la pénombre, Isaac lui dit: tu dors, Nicolas? Bonne nuit. Il referme la porte.
Nicolas fait semblant de dormir, les yeux pleins de larmes. Les studios veulent l'embaucher tous les deux. Nicolas refuse. Y hésite à cause des filles. Mais un soir, à une soirée, Y voit arriver à lui un jeune homme mince, cheveux châtains, visage fin, habillé d'un smoking. Le jeune homme lui dit: bonjour, vous êtes français? Oui. Moi aussi, je m'appelle Mathieu Borin. Je suis comédien. Moi aussi, vous êtes comédien en Amérique? Oui, mais en réalité, je ne suis plus rien. J'ai fait un film.
Non, rien, j'avais cru entendre.
Personne n'est venu me voir. En Amérique, une chose comme ça ne pardonne pas. Je ne suis plus rien maintenant.
Je t'en ai mis, non?
Je suis fauché, ruiné. Et vous vivez de quoi? Les amis qui m'aident. Greg lui dit: j'aurais aimé faire une carrière ici. Mathieu lui dit: surtout pas, retournez en France. Là-bas au moins vous êtes aidé. Ici il suffit d'une erreur et vous êtes éjecté. Je vends tout, voiture, maison, meubles. Ma femme me quitte parce que les femmes amoureuses n'aiment que les femmes américaines n'aiment que les battants. Vous allez rentrer en France? J'aimerais bien, mais il faut que je trouve l'argent pour les billets. Ce que vient de dire Mathieu fait réfléchir Y. Et lorsque Nicolas lui demande: on entre à Paris? Oui, dit-il sans hésiter. Il faut qu'il termine son scénario. Il a commencé en Amérique et à en faire un autre pour Y. Un mois plus tard, le premier scénario est présenté aux Américains de la Warner en France. Il est reçu par un de ses directeurs dans ses bureaux, où ses bureaux se trouvent Champs-Élysées. Grande pièce, baie vitrée, grande table du bureau en bois laqué noir. Un homme, grand, gros, chauve, lui dit: j'ai lu votre scénario. Il est pas mal, mais l'histoire est un peu triste. En ce moment, c'est la mode des films à grand spectacle, genre Sid. Et puis, il faudrait réécrire le rôle du personnage principal pour le donner à une grande vedette. La mode est aux grandes vedettes. Nicolas lui dit: donc le scénario ne vous plaît pas? J'attendrai que ce soit la mode.
Au revoir, monsieur.
Un soir, Nicolas regarde bien Y et trouve qu'il ressemble à son frère Denis, physiquement et de caractère aussi. Les jours passent. Comme Y n'a rien à faire, Nicolas doit lui trouver une histoire à tourner. Un soir, à son bureau, il a une idée. Au lieu que ce soit une personne invisible, la personne prendra la place de celle qu'elle aime. Et la personne aimée, son âme ira dans l'autre. En résumé, ils interchangeront leur âme ou cerveau. Voici le résumé de l'histoire. L'histoire commence tout d'abord par la tristesse du jeune homme, car la jeune fille lui désire son impossibilité de l'aimer. Le jeune homme souffre et désire ardemment la jeune fille. Il la désire tellement qu'il souhaite être elle. Et, tout d'un coup, sent son esprit entrer en elle. Au début, il croit rêver. Puis, il s'en rend compte en se regardant dans la glace et voit qu'il a pris la place de la jeune fille et qu'elle a pris la sienne. Et ceci, tout en gardant une partie de la personnalité de ce qu'ils étaient. La fille, dans le garçon, est furieuse et lui dit que c'est de sa faute. Elle se sauve et ne veut plus le revoir. Alors on voit qu'ils sont tous les deux obligés de vivre la vie de l'autre, vivre avec les parents, les amis, les soucis de l'autre, connaître ses secrets, ses manies, connaître l'autre sexe de l'intérieur avec ses besoins, comprendre pourquoi elle n'aime pas certains attouchements, les règles, les désirs, la façon de marcher, de se mouvoir, de se servir des objets, de voir, de comprendre les choses au féminin, les petits secrets entre elles, les filles, les rêves, les désirs, les inconsciences, etc., etc. Tout cela, il le voit en se disant qu'elle est comme ça. Mais des fois, cela l'agace. Et on lui dit que c'est un vrai garçon manqué. Donc, sa vie est prise dans un vrai tourbillon entre ses nouveaux parents, avec qui il est obligé de se défendre, car ce n'est pas drôle d'être une fille. Il y a plus d'interdits que pour les garçons. Ses nouvelles copines qu'il trouve tapageuses et sans gêne, devant lui elles se déshabillent, font tout et n'importe quoi. Il est vrai que c'est une fille et qu'elles n'ont pas à se gêner comme si c'était un garçon. Mais le désir reste et quelquefois il chahute d'un peu trop près et les embrasse bien souvent. Les filles sont surprises. Il leur demande même de coucher avec lui. Elles ne la reconnaissent plus. Et puis, elles n'avaient qu'à pas se doucher devant lui. Tout cela l'amuse et lui fait oublier ses peines. Pendant ce temps, celle qui le remplace fait la connaissance des parents et des copains. Les copains
Elle les trouve bêtes, débiles. Joue au foot, les filles, le rock. Mais sa nouvelle vie lui paraît plus libre. On ne lui demande pas de faire sa chambre, d'aider sa mère, ni à quelle heure elle doit rentrer. Elle s'habille comme elle veut. Elle fait de la moto, du sport, lit ce qu'elle veut. Le matin, plus de crème, de parfum, rouge à lèvres et autres. Un coup de peigne, et voilà. Elle voit aussi ce qu'elle a entre les jambes. C'est bien rigolo, mais ça ne laisse pas tranquille. Chaque fois qu'une fille passe, hop, le machin se met en route automatiquement. La nuit, c'est insupportable. On est toujours obligé de le faire fonctionner et il en sort une espèce de truc blanc gluant qu'il faut nettoyer. Elle sent aussi une certaine excitation, ne reste pas en place. Mais elle est moins bavarde que lorsqu'elle était fille. Elle s'aperçoit aussi que pour bûcher, une fille, c'est plus facile. Les premiers jours, ils se sont peu vus, trop occupés, pris en classe. À la sortie de l'école, ils se sont enfin vus avec une certaine curiosité. Chacun voulait savoir ce qu'il pensait de l'autre. Ils se sont parlé. Elle lui a dit qu'elle avait lu son journal, que ça l'avait beaucoup touché de voir qu'il pensait constamment à elle. Elle lui dit aussi que la vie d'un garçon est rigolo. Lui lui dit qu'en fille, ce n'est pas drôle, mais qu'il aime porter ses vêtements parce qu'ils ont son odeur. Chacun demande des nouvelles de ses parents. Ils sont dragués, chacun de leur côté. Alors cela les dégoûte, car ils ont l'impression d'être aimés par des personnes de leur propre sexe. Bien sûr, au début, c'était marrant de connaître sa propre sexe par l'autre. Chacun vivant à la place de l'autre se met à mieux comprendre l'autre et à l'apprécier. Il voit aussi qu'il est aimé de l'autre. Ils pensent à leurs parents respectifs et amis. Se rendent visite pour parler à leurs parents et voir leurs affaires. Il y a quelques disputes pour des choses cassées ou jetées. Puis petit à petit, la monotonie de la nouvelle vie, les tracasseries de l'autre sexe, des parents, etc. Ils regrettent chacun leur ancienne vie et se mettent à regretter l'autre aimé. Ils se voient dans leur glace et cela leur rappelle leur amour et veulent se voir comme ils étaient. Ils se voient, se disent leur amour et le désir de vraiment se retrouver comme ils étaient avant en entier. Alors, ils s'enlacent, crient leur amour. L'amour fait le miracle. Chacun retrouve ce qu'ils étaient. Voilà, le résumé de l'histoire est fini. Nicolas n'est pas très satisfait. Cette chose qui devait être une comédie a beaucoup d'amour et de tendresse et les acteurs doivent jouer à contre-emploi. La fille comme un garçon et le garçon comme une fille. Il donne à lire à Y qui lui dit « Le sujet est drôle, adolescent. » Nicolas lui dit « Maintenant il va falloir transformer cette histoire en scène et ça ne va pas être facile. » Il se met au travail puisque le sujet semble enchanter Y. Il ne reste plus qu'à trouver la fille. Là, ce n'est pas facile. Il faut qu'elle soit très féminine et en même temps capable d'avoir des gestes masculins. Il en trouve une lycéenne. Là, cette fois, les Américains ne disent pas non. Le producteur lui dit « Bien, un film pour les jeunes, les lycéens. Vous devriez tourner en Amérique.
dans une d'une de nos belles universités avec des acteurs américains. Ce sera plus coloré qu'en France. Belle pelouse, bâtisse blanche, adolescent blond, grand, rieur. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oh, je préférerais tourner en France.
Le tournage se passe bien. L'on tourne en Chambéry, comme cela le décor sera autre que ces films toujours tournés à Paris. Le film a du succès.
Nicolas continue à voir Y. Il aime toujours, mais se dit qu'il ne peut avoir de rapport physique avec lui parce qu'il a l'air trop pur, sa beauté est trop pure. Alors, il l'aime d'une façon pure, mais l'aime vraiment. S'occupe de lui, de ses études, l'habille, le soigne, l'éduque. Le jeune garçon se laisse faire gentiment. Sa famille ne dit rien ou semble l'ignorer. Y vit, pour ainsi dire, chez Nicolas, tout en ayant un appartement. Nicolas se sent bien, à part qu'il n'a pas de rapport sexuel, mais le sentiment remplace largement. Après le succès de son film, il veut en faire un autre rapidement, une histoire simple. Une histoire d'amour entre un jeune chanteur et une étudiante, dont voici en gros le résumé. Le jeune homme est sage, gentil, calme, à part sa vue musique, il ne fait rien.
Peut-être j'avance à un avenir ou c'est juste comme ça, parce qu'on est bien ensemble, qu'on discute. En tout cas, moi, je sais exactement pourquoi j'ai besoin de toi. C'est parce que tu me rassures.
La jeune fille le rencontre à une soirée chez des amis. Elle le trouve doux,
bizarre, c'est que physiquement, il s'est jamais rien passé
entre nous. Posé, gentil.
Et que moi, ça manque pas.
Fait connaissance.
Et toi, ça te manque.
Se met à l'aimer et décide de vivre ensemble.
Thank you.
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 21e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.